Alors, ce matin, je voudrais vous poser une question. C'est assez direct, hein, on y va cash, on se tutoie d'entrée de jeu. Est-ce que tu es stressé ce matin? Et j'en vois avec des sourires, d'autres moyens. Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu as des craintes, des peurs? Ça, c'est un sentiment humain. Si tu ressens ce genre de sentiment, eh bien, bienvenue dans le club des hommes et des femmes. Ça veut dire que tu fais vraiment partie des humains. Vous savez, quand on rencontre des gens qui n'ont pas d'émotion, hein, vous en avez probablement rencontré, vous dites « purée, on dirait vraiment un robot ce gars, ça ne vous donne pas envie, hein. » N'est-ce pas? Enfin, j'espère. mais, parfois on rencontre des gens qui sont hyper émotionnels, et eh bien c'est pas mieux. Hein, je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais les hypersensibles ou les hyperstressés, quelque part, ça se communique. Je ne sais pas comment vous réagissez quand il y a un orateur qui vient avec ses notes. Alors bon, voilà, on va faire comme si j'avais des notes. Aujourd'hui, je prêche avec mon ordinateur, vous ne voyez pas. Alors, vous en avez déjà vu des prédicateurs comme ça, hein, et ils sont là. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur votre chaise? Un malaise. En fait, il y a vos neurones, on a les neurones miroirs qui sont empathiques et donc vous allez ressentir cette émotion, ce stress, il va vous être communiqué. Et donc on n'est pas tous câblés de la même manière ici, hein, parce que déjà intérieurement, on ne gère pas tous le stress de la même manière, mais on n'est pas tous stressés de la même manière. Il y en a qui voient la vie cool, hein, on verra demain. Et il y a certaines cultures où c'est vécu plus facilement. À Genève, vous voyez, j'ai mis ça sur la chair. C'est une valeur essentielle, pas la montre, l'heure. Et en fait, on voit que finalement, on gère le stress d'une manière différente. Si vous avez eu des parents stressés, il est très probable qu'ils vous aient communiqué leurs valeurs qui véhiculent du stress, ou même des fois directement leur stress. Et donc, les enfants de stressés sont déstressés, des angoissés de la vie. Et en fait, il y a beaucoup de choses finalement qui peuvent être générateurs de stress. Aujourd'hui, on parle du climat, il y a l'angoisse, hein, on parle d'écho. Éco-anxiété, exactement. L'éco-anxiété, parce qu'il y a plein de paramètres qui changent autour de nous et finalement qui sont véhiculés dans les médias, propagandés dans les médias. Et donc, ça accentue ce phénomène naturel de crainte et finalement, on l'amplifie. Mais le stress, parfois, ça peut être utile, et même très utile, et parfois stimulant. Alors, ça peut nous paralyser, mais c'est parfois stimulant. Honnêtement, moi, je travaille bien sous la pression. Ça me rend efficace. Et quand certains, je leur dis comment je prépare mes prédications, et que ce matin, à 9h20, j'avais toujours pas terminé mon PowerPoint, ils me disent « Mais comment tu fais ?» Je dis « Ben, n'essaye pas de faire comme moi. » N'essaye pas de faire comme moi, mais je suis efficace sous la pression. Regardez, je ne regarde pas mes notes. C'est que je les connais, elles sont là. Mais j'ai quand même mon filet. En fait, moi, je ne stresse pas vraiment quand j'ai une prédication, c'est de la joie, mais il y a quand même du stress qui est là, mais ça me rend efficace. Par contre, il y a quelque chose qui provoque une réaction que j'aime pas trop, à vrai dire. Je me ronge les ongles devant quoi, à votre avis? Devant les matchs de foot. Je peux regarder un match de tennis, j'ai regardé un match de tennis cette semaine, là c'est Roland-Garros, super match d'ailleurs, et ben, je ne me rongeais pas les ongles. Est-ce que ça vient du fait que j'étais un ancien footballeur et que je ressens la pression du gardien de but, parce que moi je voulais être professionnel, et donc dès qu'il y a un ballon qui s'approche de la cage, j'attaque presque les phalanges à la fin du match. Hier soir, il y avait le Real Madrid qui jouait contre les Allemands, et ils ont gagné 2-0, et j'ai commencé à me ronger les ongles, et comme je préparais ce message, j'ai dit « Arrête !» Vous voyez, il y a des réflexes, on est conditionné quelque part. Et si on ne le travaille pas, ben on finit tout le temps avec des ongles. Et vous voyez, c'est pas, vous allez dire, c'est pas dramatique, mais quand même, on voit qu'on réagit au stress. En fait, le stress, ça se communique. Ça se communique, ça s'échange, et on peut le vivre plus ou moins mal. Je vais vous faire un petit exercice maintenant. Mettez vos doigts Regardez vos tempes, vous voyez où elles sont? Vous allez un tout petit peu plus au centre du crâne, à la base de l'oreille. Mettez vos doigts ici, là, voilà. À quelques centimètres à l'intérieur de votre crâne, il y a ce qu'on appelle l'amygdale. Ce n'est pas l'amygdale du fond de la gorge. L'amygdale, c'est dans votre cerveau. Et remerciez le Seigneur pour votre amygdale. Vous pouvez enlever vos doigts. Hein. Vous n'allez pas rester tout de suite comme ça. En fait, notre amygdale, c'est notre système d'alerte. C'est un peu notre alarme interne. C'est grâce à notre amygdale qu'on réagit quand on entend le bourdonnement d'une guêpe ou d'un moustique. Hein, vous réagissez la nuit. Quand vous avez éteint, vous êtes prêt à dormir, tout de suite, clac, vous réagissez. Quand vous entendez un frelon, un gros bourdonnement là pour le coup, alors là vous réagissez mais différemment, parce que le moustique, on n'a pas peur. Hein. Enfin, on n'aime pas se faire piquer, certes, ça nous réveille, mais un frelon, on n'est pas dans la même dimension. Là, on va se mettre à l'abri tout de suite, on se protège, on essaye de repérer où il est, on prend une chaussure, ce qu'on a sous la main, et on va se défendre. Viens là, je t'attends. Ça, c'est grâce à l'amygdale. Hier, il y avait l'anniversaire de ma fille, et à un moment donné, pan, il y a eu un ballon qui a éclaté. Vous avez sursauté? C'était voulu. C'est votre amygdale. C'est grâce à votre amygdale que vous avez sursauté. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Votre corps, tac, instinctivement, il s'est mis à réagir. Je vais vous surprendre aujourd'hui. Pierre, attention, il y a une montre qui arrive. Merci Pierre. Ben, je m'étais assuré, quand j'ai vu Pierre qui sursautait, j'ai dit, lui, il a son amygdale qui fonctionne. Et donc, je n'ai pas hésité à lui envoyer une montre à 3 millions d'euros. C'est une Patek Philippe. Non, c'est une blague. Mais quand j'ai vu Pierre qui réagissait, quand j'ai tapé dans les mains, je dis, ah, ça y est, lui, il a des bons réflexes. Donc, son amygdale fonctionne. Et donc, c'est grâce à votre amygdale, à son amygdale, qu'il a pu réceptionner la montre. Je la récupérerai à la fin du message. Quand vous obtenez le résultat d'un examen, vous allez voir, il s'affiche ou à l'entrée de l'école. Qu'est-ce qui se passe? Instinctivement, à l'instant où vous voyez reçu, admis, ding, c'est grâce à votre amygdale. En fait, lorsque l'amygdale, elle commande, le reste du corps réagit. Nos pupilles, elles vont se dilater en améliorant notre vision. Notre rythme cardiaque va s'accélérer en envoyant plus d'oxygène dans notre cerveau, dans notre sang et donc dans nos muscles. Lorsque l'amygdale détecte un danger, notre corps va libérer de l'adrénaline et ça va nous rendre plus vigilants, plus forts, plus rapides, plus réactifs pour affronter ou réagir, en tout cas, ou échapper même à un danger. Remerciez le Seigneur pour votre amygdale. Elle est précieuse, c'est votre amie. En revanche, votre amie, elle peut vous faire souffrir lorsqu'elle est trop sensible, lorsqu'elle se déclenche à la moindre variation, lorsqu'elle est connectée 24 heures sur 24. Et il y a des gens qui sont hyper vigilants. Et là, c'est un vrai problème. Donc vous voyez, quand on n'a aucune réaction, on est un petit robot. Mais quand on a trop de réactions, ça pose des problèmes. Max Lucado, qui a écrit un livre justement, qui s'appelle « Ne vous inquiétez de rien », dit « L'anxiété perpétuelle, c'est avoir une amygdale qui a la gâchette facile. C'est une personne qui voit un grain de beauté sur la peau et pense cancer. » Ça fait tilt chez moi parce que j'ai une tâche que je dois faire enlever. Et honnêtement, avant d'avoir vu le chirurgien, j'ai un peu psychoté. Alors, je ne sais pas si je suis hypochondriaque, mais en tout cas, ça m'a fait réagir. Rassurez-vous, tout va bien. Je ne me suis pas encore fait opérer. En fait, c'est une personne qui, lorsqu'elle voit un ralentissement de l'économie, pense récession. Elle entend les adolescents se plaindre et elle conclut directement « ils seront drogués avant d'avoir quitté la maison ». L'anxiété perpétuelle est un système d'alarme mentale qui ne se désactive jamais tout à fait. L'inquiétude mesurée est utile. Nous avons besoin d'être avertis du danger, mais nous n'avons pas besoin de vivre en alerte permanente. C'est pour ça que ça peut être dangereux. En voici la raison. Je vous ai mis ici le texte. Ah mince. Bon, voilà, vous voyez où elle se situe. J'avais zappé celle-là. Voilà ce que dit ici donc Max Lucado. Dieu a créé notre cerveau pour qu'il se régénère lui-même grâce à des antidépresseurs et des tranquillisants naturels comme la dopamine et la sérotonine. Ceux-ci rétablissent la joie et la paix. Mais si l'amygdale fonctionne en permanence, les tranquillisants naturels n'ont jamais l'occasion de faire leur travail. Le cerveau ne se réinitialise jamais. Nous devenons nerveux, inquiets et fébriles. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et voici la bonne nouvelle. Dieu peut apaiser notre amygdale. Fin de la citation. Mes amis, ça c'est une bonne nouvelle quand même. On peut apaiser notre amygdale. Si vous avez cette tendance à l'inquiétude, vous pouvez apaiser votre amygdale. Vous pouvez la calmer. Comment ? Là, je cite mon ami Samuel Laurent, qui lui est psychologue et pasteur et blogueur à TPSG. Voilà ce qu'il dit. Dieu nous a créés avec un fonctionnement physiologique qui provoque des émotions. Ces émotions sont bonnes et font partie, dans une certaine mesure, de ce que nous partageons avec lui. Mais la corruption du péché altère la fiabilité de nos émotions qui peuvent nous influencer vers le péché. Nos émotions traduisent notre vision du monde. Elles sont étroitement liées à nos croyances. Et il donne un exemple. J'ai trouvé ça intéressant. Si vous croyez qu'un chihuahua est un danger mortel, peut-être suite à un conditionnement, une expérience ou par mimétisme, alors vous percevrez un sentiment de terreur face à lui. Vous imaginez un chihuahua, c'est gros comme ça. Dans ma famille, j'en connais qui bondissent lorsqu'ils voient une petite araignée. Conditionnement du cerveau, les amis. Si vous croyez que la richesse est le meilleur moyen de trouver un sens à votre vie, alors l'augmentation de vos revenus vous procurera de véritables émotions de plaisir grâce à votre amygdale. Si vous influencez vos émotions, si vous voulez influencer vos émotions, il faudra influencer vos croyances. Alors je vous pose la question ce matin. Êtes-vous angoissé ? Est-ce que vous avez peur de quelque chose ? Peur de l'avenir ? Peur d'une personne ? Peur d'une situation ? Et parfois, on a de quoi s'inquiéter. Est-ce que vous désirez influencer vos émotions ? Est-ce que vous désirez apaiser ce stress ? Parfois naturel, parfois qui ne l'est pas. Est-ce que vous désirez ça ? J'espère, en tout cas. Si c'est le cas, à votre avis, quel est le meilleur moyen d'influencer nos émotions ? Il dit, je répète, nos émotions traduisent notre vision du monde, elles sont étroitement liées à nos croyances. Si vous voulez changer vos émotions, alors il faut changer vos croyances. Et quel est le meilleur moyen de changer ses croyances ? Est-ce que c'est de lire la Tribune de Genève ? Lire la Bible ! Évidemment, c'est renouveler la base de données interne, renouveler notre intelligence, c'est ça ? Dans Romains chapitre 12, quand il dit renouveler notre intelligence, c'est pas un truc, ah tiens, ce matin je suis zen, je vais demander à Dieu. Non, tu lis la parole, tu te satures de la parole, et le Saint-Esprit va utiliser cette base de données nouvelle, il va t'informer sur qui est Dieu, sur sa toute-puissance, sur le fait qu'il prend soin de toi, et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va réinitialiser notre base de données pour essayer de mieux gérer les angoisses, mieux gérer notre stress, et donc je vous invite à lire avec moi tout de suite, maintenant, en live, sur le tableau qu'il y a derrière vous, enfin ici. Ou alors vous prenez vos Bibles dans Matthieu au chapitre 6 et on va lire juste quelques versets, les versets 25 à 34. C'est un passage très connu, un de mes passages préférés parce qu'il y a des promesses incroyables là-dedans. Verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, là-haut, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Texte extraordinaire, je l'ai mémorisé et je vous invite à le faire. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils se préparaient au baptême, devaient mémoriser les trois chapitres de Matthieu 5, 6, 7. Préparation au baptême, mémorisation de tout le sermon sur la montagne. Ici, c'est un extrait fondamental pour moi. En fait, si vous avez remarqué, au tout début, il commence « c'est pourquoi hein ?»« C'est pourquoi ?» au verset 25, « je vous dis ». Et quand on dit « c'est pourquoi », c'est qu'il fait référence à ce qu'il y a juste avant. Et qu'est-ce qu'il a fait comme référence juste avant? C'est la portion du verset 19 au verset 24 où il va mettre en garde les riches contre le danger de trouver leur sécurité dans des biens matériels au lieu de placer leur confiance en Dieu. Et donc, il va citer ce texte-là à la fin au verset 24. « Nul ne peut servir de maître car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Mes amis, le matérialisme, c'est-à-dire l'attrait pour les biens matériels, pour les choses qui ne sont pas essentielles, notre confort, notre sécurité financière, ça peut être si fort qu'aux yeux de Dieu, ça devient des maîtres pour nous, ça devient des idoles, des faux dieux. Alors bien entendu, ça ne nous concerne absolument pas à Genève, c'était uniquement pour les chrétiens du premier siècle. On est d'accord ? Mes amis, Jésus dit que le matérialisme est un réel danger pour notre âme. Parce que cet attrait amène non seulement son lot d'inquiétude, mais surtout nous éloigne de Dieu. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Lorsqu'il y a les épines, la plante, elle commence à pousser. On a l'impression de voir un jeune chrétien là. On voit des feuilles et les soucis de la vie, notre petit confort, nos ambitions viennent étouffer la plante au point qu'elle ne porte pas de fruits. Au verset 25, Jésus met plutôt l'accent sur les pauvres. Il met en garde les pauvres contre le danger de douter de l'amour et de la providence de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans la précarité, on pourrait être tenté de dire « Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Je suis malade, je suis pauvre, j'ai pas assez pour manger. » Et qu'est-ce qu'on serait tenté de faire ici ? De dire « Mais où es-tu, Dieu ?» Et de remettre en cause, quelque part, sa bonté, sa bienveillance. Ça, c'est le côté naturel. Le riche, lui, il compte sur ses provisions, sur sa thésaurisation, sur tout ce qu'il a mis de côté, sa retraite. J'ai prévu, j'ai mon plan retraite. Ah ah ! Mais qui te dit que tu vas y arriver ? Personne. Jésus, il va remettre en question toutes ces choses, les amis. Il le fait pour les riches, et là, ce matin, ça va être un petit peu plus pour les pauvres. Je me suis dit, finalement, c'est bien la suite du message de Yannick qui avait prêché sur le jeune homme pauvre. C'était le titre qu'il avait donné. Dans les versets 25 à 34, on retrouve trois fois la même expression. Est-ce que vous l'avez remarqué ? C'est quoi l'expression qui revient trois fois ? C'est cela, ne vous inquiétez pas ou ne vous inquiétez de rien. Verset 25, verset 31 et verset 34. On voit que c'est un mode impératif, c'est-à-dire que c'est un commandement, une injonction que Jésus donne à des gens qui étaient remplis d'inquiétude. Mais j'ai réfléchi cette semaine et je me suis dit, mais finalement, Lorsqu'on dit à quelqu'un « arrête de t'inquiéter », est-ce qu'on l'aide à gérer son inquiétude ? Ah, c'est intéressant. Arrête de t'inquiéter. Ok. Bon, imaginons que tu as un problème avec les araignées. Arrête de penser aux araignées poilues. Vous dites à quelqu'un ça, mais ça part d'une bonne intention. Mais je vais faire comme Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Arrête de t'inquiéter, c'est ça. Cessez de vous inquiéter. C'est ce que dit Jésus. Littéralement, c'est cessez de vous inquiéter. Arrête-toi. Vous pensez à quoi, là, juste à l'instant ? Je vous ai donné une image et je vous ai demandé de ne pas vous inquiéter au sujet des araignées poilues. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, là ? Une araignée poilue. On est d'accord ? En fait, j'ai réactivé votre mémoire en vous rappelant le sujet. Alors, on se dit, mais attends, comment ça marche, là ? Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter et en fait, il amplifie le problème. Est-ce que ça fonctionne, là ? Comment ça marche ? Et donc, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, il y a deux éléments. La première chose qu'on peut constater, ça paraît négatif au premier abord, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai agi sur votre réflexe. J'ai amplifié le problème. Mais qui peut le plus, peut le moins ? Si j'ai réussi à augmenter votre degré d'inquiétude, alors il doit bien y avoir un moyen d'aller dans l'autre sens. Pas vrai ? Ok, bon, il faut comprendre le mécanisme. Mais pour le moment, ça c'est une bonne chose, un bon constat. La deuxièmement, c'est que Jésus ne dit pas seulement « ne t'inquiète pas ». Derrière, il va donner des vraies raisons, des bonnes raisons, objectives pour apaiser, voire éradiquer l'inquiétude des croyants. Et ça, c'est ce qui a inspiré le titre de ce message. « Ne vous inquiétez de rien ». Mais attention, il n'y a pas seulement cette injonction-là, on va voir maintenant les raisons pour lesquelles on ne devrait pas s'inquiéter. Mon premier point, la première raison de ne pas t'inquiéter, c'est parce que Dieu maîtrise chaque détail de ta vie. Dieu maîtrise chaque détail de ta vie. Il commence par donner un principe assez général et après on va rentrer avec plein d'exemples. Premier, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Avez-vous remarqué, ça c'est mes notes, je suis sorti du texte. Est-ce que vous avez remarqué l'objet des inquiétudes ici ? On n'est pas dans le futile. Ici, il s'agit de nécessités primordiales. C'est des choses essentielles, le manger et le boire. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas concerné parce que, honnêtement, enfin peut-être dans notre salle en tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas. Et si c'était le cas, venez me voir. Vous ne vous souciez pas vraiment de votre repas de demain, n'est-ce pas ? Parce que vous avez des boîtes de conserve, un paquet de spaghettis qui traîne dans une étagère, vous avez un mini-stock à la maison. Et vous avez même un frigo, ce qui n'était pas leur cas à l'époque. Eux, ils travaillaient au jour le jour, on se nourrissait, et c'est encore bien le cas dans beaucoup de pays sur la planète. Je dirais que dans 80% des humains sur la planète ont cette précarité-là, vous imaginez ? Donc ce que nous on dit à Genève, quelque part c'est un peu décalé par rapport à la réalité de ce que vivent les gens sur la planète. 80% des gens de la planète se demandent ce qu'ils vont manger le prochain repas. Moi, j'ai des amis africains, des fois, ils sautent un, voire deux repas, parce que il n'y a pas à manger. Et ils ne s'inquiètent pas outre mesure. Ils sont chrétiens. Alors, est-ce que cette injonction nous autorise à dire à tous les pauvres, ceux que vous allez croiser dans la rue, ou ceux que vous croisez dans l'église, peut-être. Alors, dans l'église, ça serait un peu différent, mais en tout cas, dans la rue, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Ou alors, si vous voyez un paresseux, ne t'inquiète pas, ne fais rien, Dieu pourvoira. Ou bien un étudiant, ne révise pas, Dieu pourvoira. Hein ? Bien entendu qu'on ne dirait pas ça. Pourquoi ? Parce que ces promesses-là, elles ne sont pas pour tout le monde, elles ne sont pas universelles, elles sont pour les croyants, pour les disciples. Elles sont adressées au début dans les Béatitudes à ceux qui sont pauvres en esprit, à ceux qui pleurent sur leurs fautes, à ceux qui ont faim et soif de justice, à ceux qui se sont détournés de leurs fautes pour s'appuyer sur le pardon de Christ, à ceux qui ont tissé une relation de confiance avec Dieu, à ceux qui ont Dieu pour Père. C'est ce que dit le verset juste après, 26. Mes amis, ces promesses ne sont pas pour tout le monde, elles sont pour ceux qui connaissent Jésus, pour ses disciples. Et ce serait tragique, même cruel, d'en faire une promesse universelle. Pourquoi ? Parce que le Nouveau Testament est truffé d'exemples et d'exhortations à prendre soin des plus faibles, à être solidaire avec ceux qui n'ont pas ou peu de ressources, comme les veuves et les orphelins, comme les malades. Jésus nous a montré un exemple incroyable. Donc, ce n'est pas parce qu'il avait les commandes au ciel qu'il n'a rien fait. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout ça qu'il est en train de dire. En fait, l'argument de ce verset-là, c'est le suivant. Et de toute la suite, d'ailleurs. Dieu, le Créateur des hommes, n'est pas limité pour prendre soin de sa création. Il n'est pas limité. Et lorsqu'on y réfléchit, c'est plus difficile de créer un homme avec toute sa complexité qu'une pomme ou une poire, n'est-ce pas ? Il est plus difficile de créer une voiture que de créer la peinture pour la décorer, vous êtes d'accord ? Donc, si Dieu a manifesté sa toute-puissance en créant l'univers et ça tourne comme une horloge, suisse, s'il vous plaît, c'est millimétré. Tout fonctionne, et dans votre corps, les amis, sauf exception, il y a quand même beaucoup d'exceptions à cause de la chute, mais ça fonctionne. On peut manger quasiment de tout, et quelque part, ça va nous donner du sucre qui va nous permettre de faire bouger nos muscles. Mes amis, essayez de trouver un appareil multi-alimentaire. Il serait capable d'avoir des piles, de l'essence, de l'eau, du sucre. Imaginez ça. Nous, les êtres humains, on peut quasiment ingérer n'importe quoi et on a une usine à l'intérieur qui va fabriquer de l'énergie. Waouh ! Et tu penses que si tu es capable de fabriquer un humain qui est une usine à gaz, beaucoup plus complexe qu'une usine à gaz, qu'une centrale, est-ce qu'il est capable de te donner à manger ? De prendre soin de toi ? Oui, il nous fait prendre beaucoup de recul. Et là, il va prendre plein de petits exemples. Et maintenant, on va rentrer dans ces détails. Le premier qui prend, c'est ce qu'il a dû voir autour de lui. Il était dehors dans la nature. Et moi, le matin, ce matin, 5 heures, les oiseaux commencent déjà à piailler. Et il y en avait. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? En fait, ici, Jésus attire notre attention, pas sur le fait de ne rien faire. Hein ? Est-ce que vous avez vu des oiseaux qui restaient tranquillement dans leur nid en attendant que ça tombe dans leur bec ? J'en ai jamais vu. Du matin jusqu'au soir, ça piaille et ça bouge. Ils vont nourrir leur progéniture. Donc vous voyez déjà, si vous vous dites « Ah, je ne fais rien, Dieu pourvoira », un peu moyen avec cet exemple. Mais ici, il attire notre attention sur un fait. Les oiseaux, ils mangent. Vous inquiétez pas pour eux. Ils arrivent à trouver leur nourriture parce que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit d'une manière globale, il pourvoit à leur nourriture. En fait, il attire notre attention sur une chose. Mais ils s'inquiètent pas. Ils s'inquiètent pas. C'est la grande différence avec nous. Nous, non seulement on va s'activer, mais en plus, on va s'inquiéter. Donc, ouais, c'est pas le problème de s'activer pour manger. Le problème, c'est de s'inquiéter et de s'activer. Et Jésus dit, quand tu fais ça, tu ne me fais plus confiance. Est-ce que je ne prends pas soin des petits oiseaux ? Et si, la question elle est évidente. Et comme c'est difficile, parce qu'on sait tous, vous l'avez compris ce texte, je pense qu'intellectuellement ce n'est pas difficile à comprendre. Est-ce que vous le vivez concrètement ? Quand vous êtes au chômage, vous savez, aujourd'hui, moi, je pourrais être paniqué parce qu'à la dernière Assemblée Générale, on a dit, si on continue comme ça, on est dans le rouge, dans 2 ans, on ferme la clé. On ferme la porte. C'est ce que j'ai entendu. À votre avis, qui est le principal concerné dans cette histoire ? Quel est le premier qui va sauter dans l'histoire ? C'est Bibi. Ça fait bientôt 25 ans que je suis pasteur. Chaque année, c'est la même chose. Je commence à m'habituer au fait que Dieu prend plaisir à nous mettre dans ces situations pour nous dire « Ok, maintenant tu peux me faire confiance. Maintenant j'ai attiré ton attention. » Et maintenant, vous allez vous bouger pour aller chercher à manger, pour aller nourrir votre pasteur. C'est un petit peu le message. Mais ça va. Je suis serein. Au bout de 25 ans, on commence à s'habituer au fait que Dieu prend toujours soin de nous. Toujours. Alors parfois, il y a des périodes difficiles, on compte, mais Dieu pourvoit toujours d'une manière hallucinante. Parfois, c'est un miracle, honnêtement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu un chèque, énorme chèque, j'ai rien demandé. Rien demandé. Quand je dis énorme, c'est pas 3 millions, hein. Mais pour moi, c'est gros. Et je me dis, mais merci Seigneur. On avait des problèmes sur notre toit, il a pourvu. C'était assez primaire. Là, ce n'était pas la nourriture, mais je peux vous dire, quand le matin, vous vous levez, qu'il y a une flaque d'eau au pied de votre lit, on va dire qu'il y a un peu urgence. Dieu a pourvu de cette manière-là. Et comme si ça, ce n'était pas clair, regardez ce qu'il rajoute, un petit élément au verset 30. Donc, il rappelle l'idée des oiseaux, et regardez ce qu'il met, il rajoute des cheveux. « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup plus que des moineaux. » Les amis, ici, je ne sais pas si vous savez, mais on a entre 100 000 et 150 000 cheveux sur notre tête. Quand il y en a un qui tombe, Dieu le sait. Un. Vas-y, regarde sur tes épaules. Est-ce que tu vois un cheveu? Il y en a qui en ont peut-être plusieurs. Bon, il y en a qui sont tout chauds là, ça va être compliqué. Mais t'as encore des poils. En fait, Dieu sait, les amis. Un seul cheveu sur ton épaule, il le sait. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? De savoir que Dieu est au contrôle de ces petits détails. Il sait exactement ce qui te manque pour finir le bout du mois. S'il sait qu'il y a un cheveu qui paraît tellement insignifiant, ça ne vit pas un cheveu, honnêtement, hein. C'est déjà inerte. Mais toi, tu penses que si lui connaît un cheveu, tu crois qu'il ne connaît pas tes problèmes? Tu crois que c'est trop grand pour lui? Mais s'il se soucie d'un petit cheveu, à combien plus forte raison? Et des oiseaux, à plus forte raison, il prendra soin de nous. Tu peux être rassuré. C'est ce qu'il dit. Soyez donc sans crainte. Arrêtez de flipper. Cool, Raoul. À l'aise, Blaise. Pas de panique, Monique. C'est des expressions qu'on utilise, mais oui. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de tous les détails dans ta vie. Il utilise un autre exemple. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? J'aime bien cet exemple. Une coudée, c'est la dimension d'à peu près de là jusqu'au bout de la main, environ 50 cm. Et là, il est en train de dire, ok, est-ce que par tes inquiétudes, tu peux rallonger ta vie? Même un tout petit peu. Vous y arrivez? Vous savez quoi? Aujourd'hui, on pense même l'inverse. C'est que les médecins disent que quand on est inquiet, c'est pas qu'on la rallonge. On l'a raccourci. Regardez ce que dit ici le docteur Charles Maillot, c'est la clinique Maillot, meilleur hôpital du monde en 2024. Je vous dis juste au passage. Regardez ce qu'il disait à l'époque. L'inquiétude affecte la circulation, le cœur, les glandes et tout le système nerveux. Je n'ai jamais rencontré d'homme ni connu d'homme qui soit mort d'avoir trop travaillé, mais j'en ai connu plusieurs qui sont morts d'inquiétude. Mes amis, on aurait presque la capacité de raccourcir notre vie. Et je dis presque, parce que c'est le psaume 139 au verset 16, affirme que tous nos jours sont comptés et sont inscrits dans le livre de vie de Dieu. Et donc, quelque part, vous pouvez ni rajouter, ni retirer. Alors vous pouvez améliorer votre condition. On est d'accord, hein? Manger sainement, faire de l'exercice, prendre des compléments alimentaires quand on a mal aux genoux, un peu de collagène, etc. Oui, c'est une bonne chose, mais ça ne va pas rallonger ta vie. Ça ne va pas la rallonger. Ça va l'améliorer, mais ça ne la rallongera pas parce que Dieu, il sait exactement l'heure de ta mort. Alors pourquoi les gens s'inquiètent? Pourquoi les gens essayent de prolonger leur vie? En fait, ils prolongent leur souffrance, là. Pourquoi ils font ça, à votre avis? Pourquoi ils s'inquiètent? Mes amis, parce qu'ils ont peur de la mort. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu as peut-être peur de la mort. Est-ce que tu veux savoir ce que la Bible dit? Parce qu'en fait, tu n'as pas peur de la mort. Tu as peur de ce qu'il y aura après, parce que tu ne sais pas. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il y aura après cette vie-là? La Bible, elle en parle avec clarté. Tu veux savoir? Alors lis avec moi, regarde. Hébreux 9, 27. « Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est pas vraiment ce que tu aurais voulu entendre. Honnêtement, j'aurais préféré te dire, comme Paul Naref l'a fait, « À la fin, on ira tous au paradis. » J'aurais vraiment aimé te dire ça. Mais la Bible, elle dit absolument pas ça. La Bible, elle parle pas d'un paradis qui attend tous les humains, elle parle de l'enfer. Elle parle d'un jugement. Et là, mon ami, ça doit te faire réfléchir. Parce que si c'est le jugement qui t'attend, alors qui c'est qui va te défendre? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si tu es tout seul, tu as perdu d'avance. Tu es déjà condamné. Tu es déjà condamné dès maintenant, là, tout de suite. Pourquoi? Parce que tu es comme moi, tu es pécheur. La Bible dit que si on a péché contre un commandement, on est redevable de toute la loi. Une mauvaise pensée, ça suffit. Une pointe d'orgueil. Mais c'est surtout parce qu'on n'a pas fait confiance à notre Créateur. On a perdu cette relation avec Dieu. On n'est plus dans une relation de confiance, on est dans une relation de méfiance ou de défiance avec Dieu aujourd'hui. Et si c'est peut-être ton cas, eh bien là, il t'offre une perche ce matin, il te tend une perche, il t'offre une perche. Vous savez, la question la plus importante finalement, c'est pas de savoir ce qu'il va y avoir après, mais c'est de savoir comment tu vas le traverser et avec qui. La Bible parle d'un avocat. Elle parle d'un avocat. Mais cet avocat, il a dû franchir des étapes. Il a passé un test. Le test de la perfection. Et moi, j'en connais qu'un seul. Et vous savez comment c'est qu'il a passé le test de la perfection? C'est qu'il est ressuscité. C'est Jésus. Il a passé le test de la perfection et Jésus l'a attesté par sa résurrection. Et donc, aujourd'hui, il est le seul au ciel vivant qui peut prendre ta défense. La Bible dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Lorsqu'il y aura jugement, parce que nous serons tous jugés, lorsqu'on sera devant Jésus, enfin devant le Père, et qu'il y aura des sentences qui vont tomber, ok. Et ce jour-là, quand tu as commis adultère, alors c'était peut-être devant un film porno, c'était peut-être avec une femme ou un homme, peu importe. Tu peux me donner une explication? Jésus dira, si tu fais partie de son équipe, j'ai déjà payé la croix pour ça. Ah, puis le petit mensonge là, dans ta déclaration d'impôt, Jésus dira, celui-là aussi, j'ai payé pour ça à la croix. Ah, et puis tous tes actes égoïstes, tout ce que tu as fait pour ta pomme, tous les actes que tu n'as pas fait que tu aurais pu faire, mais que tu t'es bien gardé de faire, pour pas t'abîmer les doigts, pour pas casser tes petits ongles. Ça aussi, je l'ai pris à la croix, sur moi. Jésus, mes amis, est le seul avocat qui peut nous défendre. C'est le seul qui peut plaider notre cause devant le Père. Personne, quand il sera devant Dieu, pourra dire « Moi, je peux justifier de ce péché. » Ça marche pas. Ça marche pas. C'est ça qui est terrible. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, ce matin, il te dit « Ok, viens avec moi. » Regardez ce que dit ce texte. Jean, chapitre 2. « Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il a franchi le test de la perfection. Il est auprès du Père. C'est le seul, les amis. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. » Mes amis, il s'adresse ici à ceux qui ont placé leur confiance en lui. Je vous recite ici, alors je vais lire peut-être le verset 11, mais il dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. » Les amis, si vous voulez que Jésus plaide en votre faveur au jour du jugement, il faut que vous soyez dans son équipe. Si vous avez Jésus comme avocat, vous êtes sûr de gagner. Comment on fait pour avoir Jésus dans son équipe ? Eh bien, le texte le dit, si vous croyez au nom du Fils de Dieu. Placer sa confiance, faire confiance à ce qu'il a fait à la croix pour nous. C'est ça qui fait qu'on peut avoir Jésus avec nous. Et quand on sera devant le Père pour le jugement, il plaidera notre cause. Sinon, c'est perdu d'avance. Dernier exemple, et je vais très vite là-dessus, je vais même le sauter. Vous m'en voudrez pas ? Les brindilles. Vous imaginez ces choses insignifiantes. Ces choses insignifiantes, Dieu, il les a créées. Le moindre brin d'herbe, c'est calculé. Et j'ai appris cette semaine, je vais vite, hein, mais j'ai appris cette semaine que quand on passe le rotophile sur de l'herbe, le fil s'use beaucoup plus vite que si on le fait sur des ronces ou des branches. Ou le taille-haie, pardon, c'est le taille-haie, c'est pas le rotophile. Le taille-haie, vous voyez, c'est des lames qui se croisent. Faites-le couper de l'herbe avec. Vous allez voir, ça bouffe l'affûtage de la lame très très rapidement. Beaucoup plus que si vous coupez des branches. Parce que l'herbe a une caractéristique très très puissante. Elle est tissée, mais c'est très solide. En plus, c'est vert, c'est beau. Hein, quand il pleut, on voit ce gazon, on fait « waouh !» C'est magnifique. Eh bien, Jésus dit « Mais si moi, je prends soin de ces petits bouts d'herbe, tu ne crois pas que je vais prendre soin de toi ?» Ce bout d'herbe-là, en fait, il va juste servir à allumer ton four. Hein, on faisait sécher cette herbe et puis on la mettait dans les fours pour l'allumer. C'est ce qu'il dit ici. Tu crois que si moi je prends soin, j'ai pris le soin dans le détail de créer ce bout d'herbe pour une finalité qui n'est pas terrible finalement. Est-ce que tu penses que je ne vais pas prendre soin de toi ? Ça devrait nous rassurer tout ça, mes amis. Allez, deuxième grande raison de ne pas t'inquiéter. Parce qu'un bon père prend soin de ses enfants. J'ai aucune idée de l'heure, du coup j'ai donné ma montre. Ok, je l'ai vue. Il faut que je speed. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi ne serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. En fait, il utilise ici un exemple en mettant en avant le côté paternel, votre Père Céleste. Un papa, ça prend soin de son enfant. Un bon père, comme Dieu l'est, lui il est parfaitement bon, eh bien il sait d'autant plus prendre soin de son enfant. Je vous donne ici une image, parce que en fait, les gens avaient une connaissance de Dieu, mais c'était très distant en fait. Ce n'était pas une connaissance intime. Je vous donne cet exemple. Imaginez un enfant de 10 ans. Son papa, il est chirurgien orthopédique. Et un jour, cet enfant, eh bien, il court, il tombe et il se fait une entorse à la cheville. Et donc, il vient voir son papa et lui dit « Papa, regarde ce que je me suis fait. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que je vais pouvoir remarcher ?» Son père l'ausculte, il bouge un petit peu, et puis il lui dit « Écoute, on va mettre de la glace, un peu de pommade, quelques semaines de rééducation, et tu courras comme un lapin. » Et donc, c'était censé rassurer son fils, sauf que pendant la nuit, le fiston a gambergé. Il n'a pas dormi de la nuit, parce que finalement, il n'avait pas confiance dans ce que disait son père. Et donc, le matin, au petit déjeuner, il en parle à son papa. « Alors, est-ce que tu as bien dormi ?»« Ben non, papa. Non, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir remarcher. » Il dit « Mais tu sais comment je gagne ma vie ?» Et l'enfant lui dit « Ben non. Ben viens avec moi ce matin. » Et il le prend avec lui à son bureau. Donc, il arrive à l'hôpital. Et puis là, première chose, il découvre qu'en arrivant sur le parking, il y a marqué « Place réservée au chef de service orthopédique. Et il y a marqué « Monsieur Dupont ». C'était son papa. « Ah, mais papa, il y a ton nom qui est inscrit là !»« Oui, mon fils, c'est une place qui m'est réservée. » Ok. Il monte les étages, il voit son nom sur l'ascenseur, un peu de partout, et puis un grand bureau. Il rentre dans ce bureau, et là, il voit plein de diplômes, plein des récompenses, des distinctions. Et puis, son père va chercher un gros livre comme ça, manuel d'orthopédie. Et il lui dit, tiens mon fils, regarde, il y a plein d'images dedans. Et un livre de plus de 1000 pages, et en gros, sur la couverture, il y a marqué son nom. Il lui dit, mais papa, c'est toi qui as écrit ce livre ? Ben oui. Waouh ! Il lui dit, ben écoute, ce matin j'ai une intervention, il y a un petit enfant qui a la cheville complètement explosée, il a eu un accident, on va aller lui reconstruire sa cheville. Et donc le voilà parti pendant plusieurs heures, et il va réparer cette cheville minutieusement, il demande de conseils à personne, il fait son job, et tout se passe bien. Et là le petit est bluffé. Lorsqu'il rentre à la maison, quand il regarde son père, il ne le voit plus de la même manière. Il dit, mais si mon père, il a été capable de réparer comme ça, bout par petit bout, une cheville, à plus forte raison, il va réparer mon entorse. Et vous savez quoi ? Il a très bien dormi cette nuit-là. Parce qu'il savait que son père était beaucoup plus fort que ce qu'il imaginait au départ. Mes amis, c'est notre connaissance de Dieu, notre connaissance intime de Dieu, c'est notre Père. Si ton Père, il est trop distant, tu seras toujours inquiet. Est-ce que tu connais Jésus ? Est-ce que tu connais les Saintes Écritures ? Est-ce que tu connais sa puissance ? Est-ce que tu connais sa bonté ? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté ? Mes amis, si tu t'inquiètes tout le temps, c'est probablement que ce n'est pas encore descendu jusqu'à ton cœur. Peut-être que tu le sais intellectuellement, mais demande-lui qu'il fasse descendre dans ton cœur. Je vais m'arrêter là, je n'ai pas le temps de finir, ce n'est pas grave. Mais moi j'aimerais juste qu'on se remette à Dieu. On va lui demander, et je vais le faire en guise de conclusion, mais en fait ce n'est pas simplement « ne t'inquiète pas », mais tu vas le remplacer, soit par la prière, « ne vous inquiétez de rien », mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Donc déjà, t'adresser à lui, tu lui donnes les détails. Vas-y, il aime ça. Il va les prendre sur lui et il va t'aider. Il va te décharger en fait. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, par la prière. Mais en plus, ici au chapitre 6 du verset 33, il dit « mais ». Ne vous inquiétez rien, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement à glorifier Dieu. Cherchez à vous préoccuper de son royaume. Non seulement pour entrer dans ce royaume, mais pour faire entrer d'autres dans ce royaume. On a une mission, les amis. On a une mission. Si on est focalisé sur Christ, si nos yeux sont sur lui, et s'ils sont focalisés sur notre mission, quand on est au travail, quand on n'est pas en train de se regarder le nombril, mes amis, on n'aura même plus le temps de s'inquiéter. Notre préoccupation, ce sera le royaume de Dieu. Et ça, c'est une saine préoccupation.